faire ce matériel de merde.
Encore un indice à la con.
Shut the fuck up, Danny.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Vous avez déjà sucé un militaire?
Non. Pas à ma connaissance.
Alors vous connaissez rien à l'amour.
It's okay with me.
Un privé à Babylone.
Je l'avoue sans peine, mais alors vraiment sans peine, je suis totalement atterré par ce que je vois, par ce que j'entends. Et je vais essayer de rester le plus factuel et le plus calme. Je vais juste évoquer la venue de Jean Messia à Évreux. Il va au contact de la manif qui était pacifiste, qui était loin de l'halle des expos, qui se déroulait place Armand-Mande, c'est-à-dire devant la poste, pour ceux qui sont évreuxiens.
Ce que tu veux dire, c'est qu'il vient provoquer.
Il vient provoquer, il vient au contact, il vient provoquer. Et il vient leur dire, vous êtes des traîtres et vous êtes des collabos. Et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a une sorte de renversement de l'histoire, avec un grand H pour le coup, où quelqu'un d'extrême droite vient voir des gens de gauche. Il n'y avait pas que les... Enfin, il y avait des gens de gauche, parce que encore aujourd'hui, on est fin février, 20 février, quelque chose comme ça, et les filles n'est pas catégorisée de extrême gauche. D'ailleurs, dans ce rassemblement, il y avait du Parti Socialiste, il y avait du Parti Communiste, il y avait du NPA, peu importe, les tendances de gauche. Et ce monsieur va leur dire, vous êtes des collabos. On rappelle que le fait de collaborer en France, c'est de 1900. 40 à 44, jusqu'à la fin de Vichy, du régime du général Pétain, ces gens-là étaient catégorisés de collaborateurs d'extrême droite. Ils ont collaboré avec le régime nazi. Les mots ont un sens. Et ce monsieur vient là, et ça passe, mais crème. Ça passe crème.
Un privé à Babylone.
Voilà. Un privé à Babylone, il n'y a que ça à dire. 17ème enquête du privé, c'est moi Gonzalo. Un Gonzalo un petit peu contraint, un peu.
Il n'y a pas que Gonzalo.
Et Mister Guy, comment vas-tu?
Bah, ça va très bien, dans un monde qui fait des minutes de silence pour des néo-nazis.
Et oui.
Tu vois, en fait, c'est là qu'on se rend compte, parce que que quelqu'un meure, c'est quelque chose qui est intolérable.
Il n'y a pas de mais.
Quel que soit le bord.
Il n'y a pas de mais.
Il n'y a pas de mais à ça. Par contre. Qui est une minute de silence pour quelqu'un qui a des idées aussi nauséabondes que ça, et qui en est jamais pour d'autres personnes qui malheureusement sont mortes alors qu'elles
n'étaient pas à ce point-là. C'est vrai que... Il y a un mois, une personne d'origine étrangère à Lyon a été tabassée à mort par un groupuscule néo-nazi.
Et j'espère qu'à un moment tout le monde va se réveiller, parce que ça commence vraiment à faire flipper là.
Eh bien, nous en sommes à matin brun, j'espère qu'on n'y arrivera pas à midi brun.
Bon,
de
tout
quoi
cas,
sera-t-il question aujourd'hui?
On va essayer de mettre un petit peu de. Un petit peu de baume au cœur quand même, parce que c'est vrai que c'est pas facile.
De quoi sera-t-il question aujourd'hui? Bien, c'est la suite de la semaine passée avec la pop bien troussée, orchestrale, mélodique. J'avais démarré avec les Beatles, rappelez-vous. Il y a une sorte de règle d'or. On met les Beatles, on est obligé de mettre les Rolling Stones. Et là, je joue la contre-carte, évidemment. Vous me voyez venir? Non?
Bon, allez. Je sais pas.
Moi aussi. Mais...
We'll be right back.
Petite feinte.
Je sais pas ce qui domine le plus sur ce morceau-là pour moi. Le fait d'entendre un tube intemporel qui vraiment est marqué à l'époque, ou l'ennui profond, ce titre qui dure, qui s'éternise et qui finalement n'a pas un rythme extraordinaire non plus. C'est-à-dire que patauge un peu, c'est une boucle. Et en fait, tu pourrais presque te demander pourquoi ça a eu autant de succès à l'époque.
1997, The Verve avec Urban Hymns.
Cela dit, Oasis faisait déjà la même chose avant. Peut-être pour ça aussi.
Peter Sweet Symphony et Rolling Stone, évidemment, puisqu'il s'agit d'une boucle piquée déjà à l'époque par Andrew Will Oldham, qu'on avait fait. Qu'il l'avait mis sur un instrumental, un album instrumental, ça s'appelait Last Time. Et d'ailleurs, Andrew Lou Goldham, le premier manager des Stones, n'a pas hésité une seconde à attaquer les gentils Verve.
C'est vrai qu'en plus, les Stones étaient en dèche de thunes à l'époque, tu vois. Ils avaient des petits soucis.
Ils ont été spoilés par Andrew Lou Goldham.
Ah oui, je sais.
Qui se l'est signé le titre. C'est pour ça qu'après, les Jaggers et Richards sont devenus des vrais requins. Mais à l'époque, ils s'étaient fait spoiler. Donc voilà. Et donc, il a attaqué The Verve qui n'a pas touché grand chose, voire rien du tout, sur ce single.
Bon,
ils ont vendu des albums.
Quand même, je pense.
La semaine passée, donc, il y avait les Beach Boys. Los Angeles, on reste à Los Angeles. Ce ne sera pas une émission miroir, le miroir s'arrête juste après. Mais il me semblait évident d'enchaîner avec Love. Voilà.
Standing everywhere, across the street I'm at the slop affair, and here they always play my songs, and me, I wonder if it's wrong or right, they come here just the same, telling everyone about their game. You think it obsolete, then you go back across the street. Yeah, street. We'll be right back.
On sent que t'as besoin de te réconforter, toi, en ce moment, quand même.
Pourrais-je dire qu'on a fait un cauchemar, il n'y a pas de nazis en France. À la suite, donc...
Par contre, t'as sorti un titre de 1984. En même
temps... Oui. Mais t'es 86, toi?
Oui, oui, non, mais je sais bien, mais 80, justement, bah, tu parlais d'actualité, ah, machin, non. Tout ça, c'est pour ça.
1967, Love sort Forever Changes, que d'aucuns estiment comme l'un des plus grands albums de la pop. Bon, moi, j'y crois pas, ces histoires de plus grands albums. Il a pas eu de succès, il a été redécouvert plus tard. Non, mais
après, t'as dit la bonne formule, un des plus grands. Et c'est vrai que c'est quand même, quand j'ai découvert Forever Changes, c'est vrai que c'est un sacré album, quoi, il faut le dire.
Maybe the people will be, etc, etc.
Maybe the people will be the times are between Clark and Hilldale.
Voilà.
Faut me demander à chaque fois, tu vois. Et c'est ça qui est bien, c'est que je pars, je sais que le titre est à rallonge, je pense que je vais me planter, et puis j'y arrive quand même. Tu vois, c'est beau quand même. Magnifique.
J'applaudis.
Si c'était en espagnol, c'est à toi.
À la suite, en 1984, tu le soulignais, les Pale Fountains, pas encore avec les frères... Ed, juste avec...
Alors, a priori, si. Ah. Moi, je vois sur la fiche de cette encyclopédie libre très connue, sur l'album, justement, Pacific Street, il y a bien Mick Ed et John Ed, a priori.
Ouais, je suis pas sûr que John fusse vraiment dans l'affaire, il devait être tout petit à l'époque. Pacific Street, un album indispensable, comme celui d'après, From Across the Kitchen Table. Et puis il y a une ressemblance, ces gamins, ces lads, de. Je sais plus comment on appelle les petits branleurs de. Les Scousers.
Les Scousers.
De Liverpool. Comment ces Scousers ont-ils pu fondre en amour sur les trompinettes de Love, les rythmes de. Et les accords, les rythmes et les accords des Birds, c'est un mystère. Toujours est-il qu'il y a la même destinée entre Love et les Pale Fountains, c'est-à-dire pas de succès, il faut bien le dire. Ils ont même fait une tournée ensemble et les gars de Pale Fountains n'étaient pas avares en produits stupéfiants. Et bien ils en avaient marre de jouer avec Arthur Lee qui était particulièrement chiant.
Oui, mais il avait pas des difficultés psychologiques un petit peu.
Comme une moitié de l'équipe de Love.
Ouais, c'est ça.
Il y avait des bipolaires, des schizophrènes.
Puis, voilà. Mine de rien, il y avait peut-être quelques substances qui traînaient déjà à Los Angeles dans les années 60. Hein. C'est possible aussi.
Je vous propose de rester à Liverpool et d'aller sur la Shankly Gates. Est-ce que tu sais ce que c'est que la Shankly Gates?
Non.
C'est une porte d'entrée du stade de Liverpool. Anfield Road, de mémoire.
Ah oui, Anfield, oui, bien sûr.
Voilà, Anfield. Pour un titre de toute beauté, encore une fois, que je l'ai dit, Annie Bott, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir. John Cunningham, Punch.
Ah, très bien. Drink.
Behind the eyes. du sang. Quoi? Le napalm, fils. Y'a rien qui sente bon comme ce truc-là. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Une fois, on avait lâché une chiée de bombe, arrosée pendant 12 heures de rang, et quand on est allé voir, on n'a pas trouvé un macap de viette, il n'y en avait plus un seul. Ça emboumait toute cette essence, ça sentait bon. La colline sentait. Ça fleurait. La victoire, quoi. Un beau jour, cette guerre finira.
Ah si, c'est magnifique.
Suvian Stevens, le petit prince de la pop ouvragée, troussée, joliment troussée, américaine. Je regardais sur Discog à l'instant, premier album en 2000, voilà, et le dernier en 2023, c'est-à-dire qu'il va pas trop tarder. Entre temps, il a sorti, je te dis combien, 22 albums.
2023, le dernier seulement.
Bah, c'est Javelin, 2023. Ah ouais, peut-être sorti
DEP. Hein. Non, t'as raison, oui, effectivement, mais c'est, ça file vite.
Difficile de choisir, évidemment, j'aurais pu me tourner vers Illinois, ou The Avalanches, ou alors Michigan, trois grands albums, avec des Z, bien sûr. Et non, je me suis arrêté sur Carrie and Lowell, peut-être moins connu, mais que je trouve tout simplement sublime.
Sorti en 2015, ouais, qu'à 10 ans, ils ont fait une superbe édition, il n'y a pas longtemps, de Carrie Lowell.
triple vinyle à triple prix.
Je crois que c'est ça, si je me souviens bien. Ouais. Mais